Bonjour à tous. Nous allons commencer notre moment de culte, mais avant toute chose, nous voulons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous mettre debout. Nous allons prier. Merci encore, Dieu notre Père, pour cette grâce que tu nous fais, de pouvoir venir librement dans ta maison pour te prier, te louer, te chanter, t'adorer, t'écouter. Merci parce que tu nous aimes et que tu nous le prouves. Tu nous le prouves tous les jours de notre vie. Merci pour cette grâce que tu fais à chacun de nous. Merci pour le souffle de vie que tu accordes encore à chacun de nous. Merci pour ces instants que nous allons passer en ta compagnie. Que tu puisses encore nous bénir dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus. Amen. Alors bienvenue à tous, bienvenue aux parents, amis d'Anne-Sophie, en ce jour très spécial. Donc c'est un jour où nous avons notre culte de baptême. Et l'Église en fait a le privilège d'accompagner Anne-Sophie pour ce moment très privilégié. Alors si c'est la première fois que vous venez dans une église et que vous vous demandez quelle est notre motivation, pourquoi est-ce qu'on se réunit un dimanche matin plutôt que de rester dans notre lit à regarder la télé ou autre chose? C'est tout simplement parce qu'un jour nous avons compris qu'il y avait un Dieu et que ce Dieu, il nous aime. Ce Dieu, il nous l'a tout prouvé à plusieurs reprises. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous pécheurs. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis un moyen pour que chacun qui veuille l'accepter, puisse l'accepter. Donc, quelle que soit la situation, nous venons ici parce que nous savons que Dieu nous aime et nous voulons juste lui rendre gloire. Quand nous lisons le premier texte dans Romains 5, versets 7 à 11, il est dit ceci. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu réconciliation. C'est pour cela que nous voulons vraiment rendre gloire et honneur à notre Dieu. Anne-Sophie, ça, c'est ce qu'elle a compris aussi. Et nous voulons vraiment, à travers ce premier chant que nous allons chanter, rendre gloire à Dieu. L'agneau dont il est question dans ce premier chant, c'est Jésus. Gloire, gloire à l'agneau.
Et digne de nier. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire.
Dans ce deuxième chant que nous allons chanter, Te connaître, la première strophe nous dit ceci. Ceux qui m'étaient chers pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde. Ceux qui m'étaient gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître. C'est vrai que malheureusement, bien souvent dans la vie, nous cherchons à construire notre vie selon les principes de ce monde, plutôt que de construire notre vie selon le principe de Dieu. Et bien souvent, nous cherchons à réussir dans la vie plutôt que de réussir notre vie selon ce que Dieu nous demande. Alors, il y a bien des personnes qui cherchent par tous les moyens à obtenir, à acquérir des biens, des situations. Et quand bien même elles ont toutes ces choses, ce n'est pas pour autant qu'elles sont heureuses. Malheureusement, il y en a certaines qui se suicident. Quelqu'un disait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et nous devons accepter Dieu dans notre vie. Et c'est lui qui donne une direction à notre vie. Nous pouvons avoir pas mal de choses. Mais comme le dit Marc 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Nous devons avoir une relation, une communion avec Dieu. Et c'est lui qui nous permet de nous sentir comme nous devrions être. Te connaître. Deuxième chant.
Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux selon ce monde. Ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime, mon plus cher désir. Te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime, vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime, oui, je t'aime.
Oui, je t'aime. Je laisse la place à notre pasteur, Serge.
Bonjour. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette liberté que nous avons dans ce contexte de pouvoir nous réunir les dimanches. Nous rappelons régulièrement que pour quelques-uns d'entre nous, c'est une option d'être là les dimanches. Il faut savoir que dans certaines parties du monde, les croyants n'ont pas cette liberté de pouvoir se réunir. Et donc, comme Eric l'a dit, à chaque fois que nous avons cette possibilité d'être dans l'Église, c'est avec reconnaissance. Parce que nous pouvons venir avec d'autres croyants, d'autres chrétiens, louer, adorer, avec le sens qu'Éric vous a donné en introduction. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un dimanche comme les autres, avec un événement spécial, bien sûr. Nous sommes l'Église de Dieu et nous sommes une communauté de croyants avec un mandat spécifique. Ce mandat, c'est Christ qui nous l'a donné. Il a donné aux apôtres. Et depuis les apôtres, ce mandat, cette mission continue. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, alors que le Christ a vécu cet événement douloureux, lui qui était innocent a été accusé à tort. Lui qui était sans péché a porté le péché de l'humanité. Ce Christ, Dieu, fait homme, qui a bel et bien existé il y a plus de 2000 ans, a montré par ses œuvres, par ses paroles, qu'il était un homme de bien. À ce procès qu'on lui a fait, il a juste demandé quel était le chef d'accusation. Ceux qui l'ont mis en procès, quand on lit les évangiles et même bien d'autres chroniques extérieures à l'évangile, n'ont pas trouvé de motif. Ils ont juste trouvé un motif religieux. Ils l'ont accusé de blasphème. Ils lui ont reproché de se faire appeler fils de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'il était. À quelques-uns qui lui demandaient de justifier ce qu'il était, il a eu cette réplique: montrez-moi, dites-moi si une fois, vous qui me connaissez, vous m'avez vu faire le mal. Qui me convaincra de pécher, a-t-il dit. Et même les personnes les plus farouchement opposées au Christ ont du mal à trouver un reproche à lui faire. Ceux qui ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu disent, ça a été un grand homme. C'était un saint, assurément. Ses œuvres ont été des œuvres de bien. Christ, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, il a dit, je suis le bon berger. Le bon berger vient pour guider ceux qu'il aime. Nous avons, en tant qu'êtres humains, parfois la conviction que nous sommes si forts que ça. Il y a des événements de la vie qui nous montrent que nous sommes bien fragiles. Que nous sommes bien fragiles. Cette image que Dieu prend en nous comparant aux brebis, vous savez, la brebis, dans le monde animal, c'est l'un des animaux les plus doux. Et c'est l'un des animaux qui est sans défense. La brebis, naturellement, n'a aucun organe de défense. Aucun. Ni crocs, ni ongles, rien du tout. Et le berger, le sachant, le berger est celui donc qui protège la brebis. La brebis est comme un animal qui parfois a du mal à s'orienter. Et le berger la conduit. Là où elle trouve du bel pâturage, là où elle trouve des sources d'eau apaisantes. Et le berger en prend soin. Et Jésus, entrant dans le monde, c'est cette image. Il est le bon berger. Il a été accusé à tort, il a été condamné à tort, mais il a dit, selon les prophéties qui annonçaient sa venue, que c'était aussi ce que sa vie allait être. Un sacrifice vivant. Il a été crucifié. La crucifixion était la peine capitale la plus horrible que l'Empire romain avait trouvée pour montrer au plus dangereux des malfaiteurs que faire du mal à ce point-là, ça coûte quelque chose. Et ça coûte la croix. Et la croix est un supplice infâme que l'Empire romain avait trouvé. Mais sommes-nous meilleurs? En plein 21e siècle, il y a aussi des supplices infâmes. Même qui sont légaux, n'est-ce pas, pour ôter la vie. Au pire des criminels, semble-t-il. Aucun de nous ne peut se réjouir d'un crime crapuleux, d'un crime horrible. Mais en même temps, une vie. Et Jésus a été ôté, sa vie lui a été ôtée par cet infâme supplice. Supplice qui commence par le fouet. Un fouet. Je vous passe les détails, mais parfois l'image que vous avez sur une croix d'un Jésus tout propre, juste ensanglanté sur les poignets, n'est pas la vraie image. Nous ne résistons pas à laisser une croix vide pour deux significations. Parce qu'il n'est plus sur la croix, ça c'est la première. Mais la deuxième c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas montrer cette image de Jésus à la croix. Si on sait ce que c'est que ce supplice, son corps n'avait aucune dignité à regarder. Parce que ce fouet était un fouet fait de lanières de cuir, enchevêtrées, de bouts de fer, pour donner la mort. Quand le supplicié était battu, en fait, sa peau était déchirée, ses vaisseaux expressément étaient coupés. C'était pour ça, pour qu'il saigne au maximum, pour lui ôter le sang. Jésus donc était ensanglanté. Il était ensanglanté. Pour ajouter au supplice, on lui faisait porter cette colonne de bois depuis le point le plus bas de Jérusalem jusqu'à Golgotha, le point le plus haut de cette ville. Pour l'épuiser. C'était pour donner la mort. La façon dont on pendait le supplicié à la croix était aussi... La Bible dit que les hommes sont ingénus au mal. On a trouvé la façon de donner la mort avec des points vitaux sur les poignets. Et la façon d'étendre la personne était que son poids lui pèse et que la personne finisse par céder. Jésus a cédé avec ce cri. Tout est accompli. Tout est accompli. Il dit, on ne me arrache pas la vie, je la donne pour ceux que j'aime. Il a accepté ce supplice. C'est le dernier des sacrifices qu'il a fait. Et comme il était sans péché et qu'il a porté nos péchés, ce jugement n'était pas sur lui, mais était sur nous. Mais il s'est substitué à nous. Et il a accepté d'aller jusque-là. À ce homme de loi, cette autorité qui lui disait, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te condamner ?» Jésus lui a dit, selon les prophéties d'Ésaïe, « Le pouvoir que tu l'as parce que je suis venu pour cette heure-là. » Mais si je souhaitais être délivré, Et Jésus a cette parole forte, il dit, à l'instant où je suis devant toi, il y a des myriades d'anges postés dans le ciel prêts à intervenir. Mais comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, il n'a dit aucun mot. Le troisième jour, Jésus est ressuscité des morts. Les témoignages dans la ville de Jérusalem l'attestent. Le complot ourdi par les chefs religieux pour taire cette résurrection l'atteste. 500 personnes vivantes l'ont vu, ont attesté de cette résurrection. Les 12 ont été témoins de cette résurrection. Après, chacun peut se faire son idée. Mais une chose est vraie, c'est que le Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est monté au ciel. Et justement, avant de monter, il donne cette recommandation à ses disciples en Matthieu chapitre 28. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Ordre de mission, mais promesse de la présence du Christ jusqu'à son prochain retour. L'apôtre Paul écrira dans l'épître aux Romains chapitre 6, versets 3 à 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » La mort, selon ce que Paul écrit dans cet épître aux Romains, est employé dans le sens de la séparation. La séparation d'avec le péché, le mal, ce mal qui nous ronge. Ce mal qui nous ronge dès notre naissance. Dans cette même épître, au chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul dira, « Car tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a même pas un seul homme sur la terre qui peut dire, « Moi, sans péché. » Comme dirait la fable, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et même si nous ne sommes pas concrètement en train de faire le mal, nos pensées nous trahissent. La Bible dit que Dieu ne juge pas d'abord nos actes, il juge les motivations et les pensées de nos cœurs. Et Jésus a eu cette parole forte en disant, celui qui pense déjà à mal agir dans sa tête, déjà, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas dans la normalité. Celui qui pense mal déjà à son frère, mal déjà de son frère, de sa sœur, qui de nous, à un moment donné, dans une situation précise, n'a pas une pensée un peu négative pour quelqu'un dans sa famille? C'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour juste dire ce que nous sommes. Malheureusement, nous sommes des êtres portés plus vers le mal que vers le bien. C'est une dure réalité que nous avons du mal quelquefois à accepter. Et le baptême, lorsque nous faisons cette découverte que Christ rencontre une personne et que cette révélation devient de plus en plus évidente pour la personne et que la personne confrontée à la parole de Dieu se rend compte de son état et qu'elle désire alors se séparer, le Seigneur lui donne cette opportunité d'une vie nouvelle. Une vie nouvelle qui est une vie d'adhésion. Et cette vie d'adhésion se manifeste par le baptême aussi, qui est un symbole de ce passage de la mort à la vie. Le baptême, dans son étymologie, veut dire plonger, immerger. C'était ce symbole que nous a laissé Jésus et les apôtres pour montrer que celui qui fait confession de foi, celui qui adhère à ce message du Seigneur, accepte de dire, moi, aujourd'hui, j'ai compris que je ne veux plus rendre ma vie accessible, dominée, dirigée, esclave du péché. Je veux mourir à cette domination du péché sur moi. Donc en la plongeant, la personne dit ça. Et en la sortant, la personne dit, je veux désormais vivre en nouveauté de vie, être une personne de bien, me laisser conduire par le Christ, rempli de l'amour de Dieu. Voilà le sens du baptême. Et la personne affirme ainsi, adhérer, marcher avec reconnaissance et compréhension par rapport à la parole de Dieu, à la Bible. Elle s'identifie ainsi à la personne du Christ, à Jésus, qui devient son sauveur, mais qui devient aussi celui qui va lui montrer le chemin au travers de la parole de Dieu. En se baptisant, cette personne affirme aussi, fait partie de la famille de Dieu, de l'Église, pas celle simplement de Créteil, bien sûr que nous sommes une Église, mais de l'Église avec ce grand E, l'Église de tous les rachetés du monde entier, de toutes les époques, de toutes les civilisations et de tous les temps. Voilà le sens du baptême. Voilà pourquoi nous sommes là. Et je vais donner cette opportunité à notre sœur Anne-Sophie de nous dire si cette adhésion a été une adhésion consentie. Parce que quelquefois, on a l'idée qu'il y a du bourrage de crâne, qu'il y a des gens dont le travail, c'est des prosélytes. Ils sont là pour enfermer des gens dans la foi. Non. C'est une démarche. C'est une conviction qui prend du temps, quelquefois. Et lorsque la personne en est convaincue qu'elle a été accompagnée, alors nous arrivons à cette étape-là. Je te donne donc l'opportunité, Anne-Sophie, de nous dire ce que tu veux nous dire ce matin.
En juin 2020, Dieu est venu me chercher en mettant dans mon cœur cette envie, ce vouloir de le connaître et de méditer sa parole quotidiennement. Tout comme les non-juifs que Pierre a enseignés, j'ai découvert au fur et à mesure le message de l'Évangile, à savoir que Dieu, par amour, a envoyé son Fils unique pour me sauver, pour nous sauver, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, selon Jean 3, versets 16 à 17. C'est donc à l'âge de 24 ans que j'ai la révélation de la personne de Jésus-Christ et que j'ai cru à la bonne nouvelle. En retour de son amour pour moi, je prends la décision de lui obéir et de faire sa volonté, entrer dans les eaux du baptême. Bien avant cet acte, Jésus a amorcé un changement dans mon cœur et mon comportement. Malgré mes péchés et mes manquements, il veillait sur moi et ma famille. Je suis bénie jusqu'à ce jour. Je sais désormais que c'est par grâce que je suis sauvée, et non par mes actions. De même, mes péchés me sont pardonnés, selon Éphésiens 2, verset 8. Au début de ma marche avec Jésus, mon zèle m'a apporté beaucoup de pression, la peur de mal faire. Mais le Saint-Esprit m'a rassurée. Cette vie avec Jésus équivaut à un marathon et non à un sprint. J'ai compris qu'être en marche en constante progression et chercher à tendre vers la perfection est la bonne marche à suivre. Le Seigneur désire notre bonheur. En effet, sa parole nous dit, en Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les plans que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Pendant ma marche, je crois que le Seigneur m'a amené au bon endroit et au bon moment de ma vie au sein de cette Église. Ma présence devant vous dépend avant tout du Seigneur, mais également du pasteur Serge, qui m'a accompagné en amont pour que ce jour ait lieu, jour durant lequel je déclare que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Ouvrons nos cœurs et soyons reconnaissants du sacrifice de Jésus à la croix pour nous, sans quoi nous serions condamnés. Comme me l'ont si bien rappelé des sœurs de l'Église, j'ai choisi la bonne part. Ma vie nouvelle ne fait que commencer et j'ai cet ardent désir d'aller de victoire en victoire avec Jésus.
C'est une démarche donc de conviction. Elle a proposé un chant que le groupe de louanges va interpréter maintenant pour l'accompagner. Après ce chant, nous entendrons encore une prédication. Et juste après cette prédication, Anne-Sophie passera par les eaux du baptême.
Nous venons d'entendre le témoignage d'Anne-Sophie qui raconte comment est-ce qu'elle a rencontré Dieu. Et comment est-ce qu'elle ressent. Et c'est vrai que quand on parle à Dieu, quand on l'invoque, quand on est proche de lui, on ressent une paix. On ressent une profonde paix, une paix qui serait indescriptible. C'est pas une paix. La parole de Dieu nous dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Mais Dieu nous donne une paix, une profonde paix. Le prochain chant, Viens toucher ma vie, c'est un chant qui a été proposé par Anne-Sophie.
Thank you. auquel paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le oui faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi.
Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau.
J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh Jésus, viens régner dans ma vie. La 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 la.
Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
Je vais relaisser à nouveau la place à notre pasteur. D'accord.
Je vais vous inviter à chanter une strophe de ce chant. Je vais vous inviter peut-être à vous dire que vous puissiez vivre avec une certaine émotion hein, qui est.
Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation. Ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi
et tout en ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
J'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais, donc fais ce que toi seul sais faire. Oh, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais.
pèse que toi seul, c'est vrai. Jésus vient régner dans ma vie. La 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 la. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh.
Il y a un adage qui dit chanter, des fois, c'est comme si nous prions aussi. Et c'est vrai que il y a des cantiques qui nous permettent de prier dans le sens de nous confier au Dieu Sauveur, en Jésus-Christ. Je vous propose, avant de passer aux eaux du baptême avec Anne-Sophie, de faire un petit parcours dans la parole de Dieu. Nous permettre ce matin de réfléchir au sens de l'engagement dans la foi chrétienne. L'apôtre Paul, dans l'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, et on reviendra sur le texte, non, tu le laisses là, c'est très bien comme ça. Il dira, et je paraphrase, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et c'est ce que Anne-Sophie a témoigné ce matin. Et le moyen par lequel cette faveur de Dieu vous sauve, c'est la foi avec laquelle vous y croyez. Finalement, si vous êtes sûr de votre salut, si vous êtes sûr d'un jour être dans la vie éternelle, être au paradis de Dieu, ce n'est pas parce que vous le méritiez, ce n'est pas parce que je le méritais. C'est Dieu qui, dans sa miséricorde, dans sa grâce, nous a offert une faveur. Une faveur que nous acceptons avec confiance. Être sûr de vivre avec Dieu, ce beau projet d'amour, ce beau projet de paix, être sûr de vivre ce projet éternellement auprès de Dieu, dans ce lieu qu'à peine nous pouvons imaginer, ne se mérite pas. Ce n'est pas nos œuvres qui nous donnent le salut, parce que nos œuvres, de toutes les façons, elles sont disqualifiées à cause simplement de nos pensées. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui, une fois de plus, prend l'initiative de cet amour. Dieu est le juste juge qui sait qu'aucun de nous ne peut satisfaire sa justice. Et du coup, parce qu'il nous aime, le premier livre de la Bible dit que Dieu nous a créés en son image. Nous sommes une créature merveilleuse, façonnée par le Dieu du ciel. Malheureusement, le péché nous a atteints. Nous avons été corrompus. Mais Dieu qui nous aime n'a de cesse mis des moyens pour rattraper, pour sauver, pour combler sa propre justice. Et c'est lui qui prend l'initiative, comme je vous l'ai dit. En Jésus-Christ, Jésus-Christ renferme tout ce que nous sommes de mal, parce qu'il accepte de le prendre sur lui, mais Jésus-Christ renferme tout ce que nous sommes de bien, parce que la Bible dit que c'est le deuxième. Après le premier Adam, c'est le deuxième qui rentre et qui refait tout à nouveau, comme le dit le chant. Une nouvelle vie, tout à nouveau. C'est le Christ qui le fait. C'est cette grâce que Dieu a offert à Anne-Sophie et à bien de nombreuses personnes dans cette salle, mais en dehors aussi. Le salut est offert gratuitement. C'est la grâce de Dieu qui l'offre. Et nous sommes invités à reconnaître ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs et à saisir la main de Dieu qui nous fait cette grâce et cette faveur. Une fois que nous sommes dans ce parcours de foi et que nous arrivons à l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui, il est bon de savoir comment Dieu souhaite que nous vivions notre vie. Les habitudes du cœur. Dieu parle beaucoup au cœur. C'est pas cet organe qui est dans notre poitrine. Non, il s'agit pas de celui-là. Mais c'est une image. Le cœur est le centre. Dans la parole de Dieu, le cœur représente ce que l'être humain est de plus profond en lui. Certains disent, ça représente ce que nous sommes en tant qu'être spirituel, être corporel, être, comment dire? En fait, ça représente tout ce que nous sommes. Volonté, raison, émotion, tout ce que nous sommes. Et c'est ça que Dieu prend sur lui de nous accompagner à changer, enraciner et fonder dans l'amour de Dieu. Vas-y. Alors, il ne suffit pas de saisir intellectuellement les fondements de notre foi, même si cela est important. Il faut que cela aussi pénètre profondément notre cœur et commence à transformer toutes les facettes de notre vie. Nous devons saisir de plus en plus ce que fait le fait d'être un chrétien, un disciple veut dire réellement, et laisser peu à peu cette réalité teinter nos moindres désirs. Et justement, l'apôtre Paul en parle, la diapo d'après, s'il te plaît, dans l'épître aux Éphésiens. Le Christ qui habite en notre cœur. Éphésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, donc à cause de l'amour de Dieu, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est une parole, comme les autres paroles de la parole de Dieu, de la Bible, c'est une parole forte que l'apôtre Paul donne pour fonder ce que Dieu attend, que le nouveau, celui qui se tourne vers lui, commence à être un être nouveau, un homme nouveau, une femme nouvelle, peu importe l'âge, peu importe notre condition sociale, peu importe qui nous sommes des hommes et des femmes que Dieu cherche à transformer en bien. Quand il parle de ces quelques dimensions géométriques, regardons quelques significations de cela. Vas-y, s'il te plaît. Dans la longueur dont parle ce texte par rapport à la mort de Dieu, c'est l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Cette espérance qui est née bien avant la fondation du monde. Le plan de Dieu commence bien avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Dans l'éternité passée et qui s'étend jusqu'à l'infini que nous ne connaissons pas. L'amour de Dieu est si long. L'amour de Dieu est si long. La Bible dit que Dieu connaît chacun d'entre nous avant même que nous ne naissions. Avant même que le projet passe dans la tête de nos parents, Dieu nous connaissait. Un prophète l'a dit avec acuité, il dit « Alors que j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. » Jésus dit que Dieu connaît le nombre de chaque brin de cheveux que chacun de nous porte. Pour préciser qu'il nous connaît intimement, Dieu nous connaît intimement. Cette longueur de son amour date et fera encore date. La largeur dont il parle, c'est la richesse insondable du Christ. Cette richesse prend tous les hommes, peu importe leur sexe, peu importe leur couleur de peau, peu importe leur condition sociale, peu importe le lieu où ils habitent, Christ aime tous les hommes, sans exception. Il aime tous les hommes, toutes les femmes, peu importe leur âge. C'est un amour qui est tellement large. Regardez autour de vous ce matin. Si on tendait le micro pour dire nos origines, waouh, nous sommes de diverses origines ce matin. C'est une grâce de Dieu. Et nous sommes de diverses générations aussi. Cet auteur dont parle cette parole, c'est la hauteur qui indique que nous sommes en Christ, ressuscités pour siéger ensemble avec lui dans le monde céleste. Jésus nous donne de prendre de la hauteur. C'est vrai, cette hauteur, elle est spirituelle, mais cette hauteur, elle est aussi par rapport au péché. Jésus donne la force à celui qui marche avec lui de se lever au-dessus du mal, de prendre de la hauteur par rapport au mal. Avant, nous n'avons pas forcément cette capacité de prendre la hauteur par rapport au mal. Parce que de toutes les façons, le mal que nous connaissions, c'est celui que notre société définissait. Et parfois, quand la société dit mal, Dieu dit bien. Quand la société dit bien, Dieu dit mal. Et nous sommes perdus. Comme des brebis errants, nous n'avions plus d'orientation. Et quand Jésus nous rattrape, il nous réoriente à nouveau. Il nous montre les choses. Il nous dit les choses. Il nous permet de prendre la hauteur. Cette profondeur fait référence à la mort. La mort dans laquelle nous vivions et à laquelle Dieu nous a arrachés dans son appel. Profondeur, sépulture, nous descendons à la fin de nos vies. Ça dépend de la façon dont on va nous enterrer, mais de toutes les façons, nous sommes dans une profondeur. Et cette profondeur, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi il apparaîtra devant Dieu. Et la parole de Dieu dit, comment veux-tu te trouver devant Dieu? Dieu t'offre une grâce. Ne pas le dire, ça serait égoïste de notre part. Selon les Écritures, nous avons deux chemins. Le chemin de la vie éternelle et malheureusement, le chemin qui mène à la mort éternelle. Dieu est encore un Dieu de grâce qui ne veut pas juger. La Bible dit que Dieu est venu non pas d'abord pour juger, mais pour sauver. Et son salut est ouvert. Dieu est disponible, comme dit la publicité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Dieu est disponible. Dieu est disponible. Deuxièmement, Dieu nous invite à cultiver de saines habitudes dans nos vies personnelles, selon l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. Le terme « cultiver » ici prend une dimension intentionnelle, une dimension régulière, une dimension d'implication. Le chrétien est invité dans cette nouvelle orientation à s'impliquer pour donner à Dieu la possibilité de lui montrer ce qu'il est de bien, ce qu'elle est de bien. Tout son potentiel, Dieu veut le développer. C'est avec le Christ que vous avez été réveillé de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous appartient à la terre. Par exemple, mener une vie immorale ou impure, désirer des choses honteuses ou mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, ce qui est d'une façon d'adorer de faux dieux. Voilà ce qui offre la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse. Elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Dieu vous a choisi. Il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, Faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien. L'amour est le lien qui unit parfaitement. L'amour est le lien qui unit parfaitement. C'est un petit mot qu'on emploie, je ne sais pas combien de fois, dans une vie. Et parfois, on se demande, et pourtant, on se réveille avec ce qu'on appelle des faits divers et on nous apprend qu'un homme qui aimait sa femme l'a tuée. Et ça nous interroge sur la qualité de l'amour de notre monde. On apprend que dans des familles, terreau de l'amour par excellence, les choses ne vont pas si bien que ça. Et pourtant, on parle d'amour. Dieu est celui qui veut réinvestir ce que lui, il a introduit dès le commencement, qu'il appelle amour. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui unit parfaitement. C'est ça que Dieu veut faire dans la vie d'un chrétien. Enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Troisièmement, vas-y, passe, s'il te plaît. Cultiver de saines habitudes dans son foyer. Il y aurait tant à dire sur cette question. Et Dieu a un projet. Le texte que je vous ai lu au départ dit que toutes les familles tirent la origine du Dieu des Lumières. Dieu est le créateur de la famille. Le foyer, c'est le projet de Dieu. Dieu y tient tellement. Dieu aimerait que les hommes, dans ce cocon familial, vivent quelque chose d'exceptionnel. Et pourtant, le mal étant rentré en nous, ce n'est pas toujours le cas. Nos foyers ne sont pas toujours un havre de paix. Nos familles ne sont pas toujours un cocon douillet à cause du mal. Et c'est ça que Dieu veut changer. Quand Dieu rentre dans la vie de quelqu'un, c'est cette... comment dire? Vas-y, s'il te plaît. Les principes fondamentaux de la foi exigent une vie disciplinée à tous les niveaux. Un de ces aspects concerne la vie familiale. Souvent, les gens voient la foi comme une question personnelle et ils négligent de l'intégrer pleinement à leur vie familiale. Et Dieu en parle tellement. Et parfois, Dieu prend l'image de la famille pour parler de sa relation aux hommes. L'amour est une responsabilité affectueuse. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et comme il aime son propre corps. Les commandements de respect, je l'ai mis en parenthèse parce que c'est un mot qui fait bondir les cheveux. Le commandement de se soumettre est une application particulière d'un devoir général du chrétien. Ce texte cité dit dès le départ, soumettez-vous les uns aux autres. Et les deux facettes de la soumission dans l'amour conjugal se déclinent par l'amour du mari pour sa femme et le respect de la femme pour son mari. L'épouse respecte un mari qui l'aime et non pas un mari qui la domine. C'est Dieu qui le dit. Jésus-Christ est le chef de l'Église, mais il n'est pas dominateur, il n'est pas dictateur. La preuve, c'est que chacun est libre de le choisir ou de le refuser, n'est-ce pas? Et c'est ce modèle que Dieu veut qu'il y ait dans la famille. La famille aussi est invitée à cette relation avec les enfants. Nous insisterons sur le fait d'instruire nos enfants, de les entraîner à la vie avec amour. Il ne s'agit pas exclusivement d'une connaissance théorique ou d'une compréhension intellectuelle. Habituer à agir d'une certaine façon, c'est de ça qu'il s'agit. Éduquer, instruire, enseigner, c'est habituer nos enfants à agir d'une certaine façon selon le bien que Dieu définit dans l'Écriture. C'est le formateur, le parent qui est responsable de ce que cette personne va devenir au bout du compte. Il la forme en tant que personne. Ils vont sortir une publicité bientôt pour lutter contre la violence faite aux enfants. Vous savez que déjà les châtiments corporels sont interdits dans l'Union européenne. Va savoir pourquoi. Mais en tout cas, les enquêtes qu'ils ont faites par rapport au châtiment corporel étaient hallucinantes. Certaines familles n'ont que comme articulation les châtiments corporels pour éduquer les enfants. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas un père fouettard. Comment nous, parents, pourrons-nous être des pères fouettards ou des mamans fouettards? Dieu est un éducateur, est un pédagogue. Ils vont sortir cette loi, ils vont faire une publicité qui va, enfin, l'un des spots, un enfant qui gribouille le mur avec un marqueur indélébile et son père commence à vouloir déchaîner cette violence verbale comme on sait se faire souvent sur l'enfant. Et puis du coup, l'enfant lui apparaît comme un adulte. Et là, il se retient, il commence à dialoguer avec son fils. Tu sais, un marqueur, c'est pas fait pour le mur. Des fois, si nous écoutons Dieu, nous sommes aussi invités à être des parents avec des outils que Dieu nous donne, des outils d'amour, pédagogiques, et pas juste des parents. Et ce texte que je vous ai laissé dit justement, parents, n'irritez pas vos enfants, ne les exacerbez pas, mais éduquez-les selon la volonté de Dieu, avec amour. Oui, dans l'éducation, il y a la correction, bien sûr, mais de quelle correction parlons-nous là aussi? Vas-y, s'il te plaît. Avant-dernier point, cultiver les saines habitudes dans la famille de l'Église. L'Église n'est pas une option. Quand on est chrétien, on ne peut pas... Je suis peut-être de la vieille école, je sais pas, mais les dimanches matin, l'Église pour moi, ça fait partie de ma vie hebdomadaire. Ça fait partie de la vie de ma famille. Quand Dieu donne le souffle à nous parents de nous lever, de vaquer à nos occupations en semaine, aller au travail, accompagner les enfants à l'école, parce que nous savons qu'il y a du bien dans ça. Aller au travail, bah, c'est avoir sa pitance quotidienne, c'est aussi se développer humainement. Envoyer nos enfants, conduire nos enfants à l'école, cela permet d'avoir une éducation, d'avoir une instruction, surtout que nous avons vraiment ce privilège dans ce pays de ne rien payer, en tout cas jusqu'à un certain niveau, et que même l'État nous dit tu ne dois pas laisser ton enfant à la maison. Nous faisons toutes ces activités, parfois, oui, avec de la fatigue. Le lundi matin, ce n'est pas le jour idéal, mais quand même, on y va. Parce que nous connaissons tous l'importance d'y aller, n'est-ce pas? Et pourtant, pour notre éternité, on choisit de dire « Oh, ce dimanche, je suis fatigué, je ne vais pas aller. » Ah là là. L'Église, vas-y, s'il te plaît. Pourquoi est-ce si important de se réunir régulièrement? Vous avez quelques motifs là que je vous donne. Le fait que nous ayons choisi de croire et d'être baptisés, Anne-Sophie en l'occurrence aujourd'hui, implique que nous serons soumis immanquablement à une pression quelconque d'abandonner la foi. Nous vivons dans une société qui n'est pas toujours favorable à la foi chrétienne. Nous ne nous en plaignons pas en tant que ça, mais pour ne pas ignorer que des fois, si nous sommes tous seuls, nous prenons le risque de nous éloigner bien vite. C'est donc que nous avons besoin de ce rassemblement. C'est comme ça que Dieu, que Christ l'a conçu, pour que dans ce rassemblement, il y ait une ferveur, que nous soyons toujours exposés à cette proclamation de l'Évangile, que nous soyons toujours encouragés, comme Anne-Sophie l'a dit dans son témoignage, par les frères, par les sœurs, que nous puissions ensemble démontrer cette vie d'amour, nous encourager, nous soutenir, comme le texte que j'ai lu tout à l'heure, pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient, être là dans une communauté d'amour, nous faire du bien, nous porter, entendre l'Évangile, apprendre ensemble à grandir dans la foi, et puis ensuite à manifester cet amour pour que les autres aussi que nous aimons puissent le voir et être invités à faire des marches comme nous. Le croyant était appelé à s'impliquer dans cette rencontre de manière que cela devienne une habitude du cœur. Un missionnaire a dit, dans une ville, Si on veut du pain, on va chez le boulanger. Si on était malade et qu'on a une ordonnance, bah, on va à la pharmacie. Et en général, quand on cherche à se loger, on cherche un appartement pas loin de ce genre de commodité, n'est-ce pas? Mais il dit, quand les gens cherchent Dieu, où iront-ils? Il dit, s'il n'y a pas d'église, où iront-ils? Et donc, l'église est là dans une ville pour donner cette opportunité à tous ceux qui cherchent Dieu, à tous ceux qui veulent entendre parler de l'amour de Dieu, de venir dans cette communauté. Et nous sommes heureux que le témoignage d'Anne-Sophie dise une fois de plus la réalité de cela. Nous ne la connaissions pas il y a un an et demi, Anne-Sophie. Nous l'avons vue débarquer un matin dans cette communauté. Et nous avons été touchés par une jeune femme arrivée, volontaire. Je peux vous aider? Je dis, mais c'est qui celle-là? Bien vivante. Et puis nous avons appris à la connaître, à cheminer avec elle. Et elle a dit ce qu'elle vous a dit ce matin. C'est dans son intimité de lecture de la parole que la conviction est venue de trouver une église. Heureusement que nous étions sur le chemin d'Anne-Sophie. Comme aussi, certaines églises ont été sur notre chemin. Moi, je suis reconnaissant à Dieu parce qu'il y a une église sur mon chemin quand j'étais étudiant. Et aujourd'hui, je suis là, c'est parce qu'il y a eu cette église-là aussi. L'église n'est pas une option. Elle est dans le plan de Dieu. Vas-y, s'il te plaît. Et je termine. Notre foi ne se limite pas à la sphère de la communauté chrétienne. Notre foi ne se limite pas à la sphère de notre famille. Notre foi ne se limite pas qu'à nous. Elle a des ramifications là où nous vivons, notamment au travail aussi. Au travail aussi. Travail ici, prenez travail comme tous les lieux où vous allez, qui ne sont pas des lieux intimistes, qui ne sont pas la famille, qui ne sont pas l'église locale, qui ne sont pas vous-même, mais qui sont autres que vous-même. Et Dieu nous invite aussi, dans ces endroits-là, à cultiver de saines habitudes. Regardez, c'est un monde anxiogène. On est stressé parce que depuis quelques années, on ne sait pas ce qui nous attend quand nous sortons dans la rue. Pour des pécadis, les gens se prennent la tête facilement dans le métro, dans la rue. Hier, dans un rond-point, un chauffeur de gros camion qui avait du mal à faire sa manœuvre, un utilitaire derrière lui, pap, c'est parti tout de suite en violence. Ah, avec les mots que vous savez. J'ai dit, waouh, tôt le matin, il était 7 heures du matin. Ah. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Alors, si le chrétien peut être un artisan de paix, si la chrétienne peut être quelqu'un ou quelqu'une qui est transformée et qui peut apporter sa contribution en tant que sel et lumière, en tant qu'artisan de paix, quelle respiration pour notre société? Quelle respiration pour notre société? Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites d'ailleurs à l'égard de tous les frères dans la Macédoine entière. Nous vous exhortons, frères, à faire encore de nouveaux progrès. Ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires et de travailler de vos mains comme nous l'avons ordonné, pour que votre conduite soit honorable au regard des gens du dehors et que vous n'ayez pas besoin, que vous n'ayez besoin de personne. C'est une invitation à travailler, à s'autosuffire. Et le texte est plus long que ça, pour qu'en étant autosuffisant, que nous puissions apporter aussi une contribution dans la société, une contribution aux autres qui sont parfois dans le besoin. La charité chrétienne. Le travail est une valeur qui valorise la personne, mais le travail est une valeur qui aide la personne à manifester aussi de la charité chrétienne. Quand il y a les besoins, et les besoins, il y en a toujours. Et enfin, à la fin de cette invitation, je vous propose quelques questions. Si du reste mon discours a eu quelques échos auprès de vous, est-ce que ça a suscité quelques convictions? En tout cas, Anne-Sophie, cette conviction a été travaillée en elle. Elle a fait son parcours. Elle a été accompagnée. Aujourd'hui, elle va passer par les autres baptêmes parce que cette conviction, elle est mature aujourd'hui. On est passé en mode veille? Non, c'est bon. Quelle transformation Dieu peut-il opérer dans votre vie par rapport à ces 5 points que Dieu éclaire? on a des besoins. J'en ai exposé 5, il y en a bien d'autres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a parlé, qui vous a parlé, pardon? Y a-t-il des points que vous auriez aimé développer davantage? Bah, laissez Dieu vous aider à le faire. Qu'est-ce qui vous a plus interpellé? J'ose poser cette question. Est-ce que vous avez été interpellé? J'en sais rien, mais ça serait bien quand même. Quelles convictions avez-vous tirées? Qu'est-ce qui vous a le plus réjoui? En quoi votre vision de la vie a-t-elle été impactée? En tout cas, celle d'entre nous, en tout cas notre vision à nous et celle d'Anne-Sophie, comme elle a partagé ce matin, et non les arguments pourraient être aussi repris par plusieurs d'entre nous qui sont devenus croyants. Oui, nous avons répondu à quelques-unes de ces questions-là. Notre vision de la vie a été impactée par l'amour de Dieu. Et c'est cet amour que nous voulons laisser comme notre guide, notre conduite. Et c'est pourquoi je vais inviter Anne-Sophie maintenant. Nous allons passer à cette étape parce qu'elle, elle a réfléchi à ces questions. Elle s'est laissée conduire et nous allons l'inviter. Et cette invitation, d'autant plus que nous sommes dans un temps particulier, n'est-ce pas? C'est un week-end de la Toussaint où nous nous rappelons ceux qui nous ont quittés. Nous qui avons perdu des êtres chers, c'est toujours une séparation difficile et douloureuse. Leurs souvenirs nous manquent, mais nous qui sommes chrétiens, ce que nous espérons le plus profond au fond de nous, c'est que les êtres chers que nous aimons aient fait la paix avec Dieu et qu'ils soient au paradis. Et c'est cette démarche qui commence avec celle que vous allez entendre tout à l'heure, qui est le commencement. Accepter Dieu, témoigner de sa foi, passer par les eaux du baptême et continuer de cultiver, comme je vous l'ai dit en tout cas, ces 5 points. Je vais inviter Anne-Sophie à me rejoindre.
Nous sommes dans la joie pour Anne-Sophie, pour son baptême. Mais nous savons que juste après le baptême, quand nous sommes chrétiens, ça ne veut pas forcément dire que tout ira bien. Nous aurons des problèmes comme les autres, mais les problèmes, nous les surmonterons différemment parce que nous avons Dieu dans notre vie. Dieu est avec nous. Nous allons chanter un chant qui dit « Il n'a pas dit ». Il n'a pas dit que tu coulerais. Dieu sera toujours là avec nous. Quelle que soit la situation, nous pouvons toujours nous adresser à Dieu. Dieu est toujours là, présent, à nos côtés, et Dieu répond à nos besoins. Il n'a pas dit.
Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord.
Il nous dit juste de passer de l'autre bord, c'est qu'il est avec nous. Quand c'est Dieu qui nous parle, qui nous demande de faire quelque chose, il est avec nous. Donc soyons assurés que si c'est lui qui nous dirige, nous serons bien tenus, nous serons en bonne compagnie. Nous attendons juste un peu l'arrivée d'Anne-Sophie, parce que nous allons passer à notre moment de Sainte-Cène. Donc pour cela, je vais appeler tous les responsables. Émile, Serge, Pasteur Serge, Eric, plaît. Nous avons beaucoup entendu le mot amour. Et c'est vrai que l'amour, c'est ce qui caractérise le mieux Dieu. Comme l'a cité Anne-Sophie dans son témoignage, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, il n'a pas dit que certaines personnes, il a dit que quiconque, quelle que soit la personne, quel que soit ce que la personne aurait pu faire dans sa vie, mais afin que quiconque ait la vie éternelle. Toute personne qui s'approche de Dieu, Dieu accorde le pardon, le salut. Chaque personne a la possibilité de devenir enfant de Dieu. C'est quelque chose qui peut nous dépasser, parce que bien souvent on a tendance à se dire, pour mériter quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais là où l'amour de Dieu nous dépasse, c'est que tout en étant Dieu, il est venu sur terre, Jésus est venu sur terre, il s'est sacrifié. La croix qui symbolise encore cet acte qu'il a fait, c'est pour chacun de nous. Un Dieu aussi grand, si parfait, qui aime ses enfants au point de se livrer à la croix pour nos péchés. Je ne trouverai pas les mots pour décrire l'amour de Jésus pour chacun de nous. Tellement cet amour est grand. Nous allons chanter ce chant. Mon Dieu est si bon. Ce que Dieu il a fait pour Anne-Sophie, ce qu'il a fait pour nous qui connaissons Dieu, il peut le faire pour tout un chacun. Mon Dieu est si bon.
Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à l'été que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, viens plier à sa loi. Alors ne crains pas, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Avec mon Dieu,
avec
toi,
tu sais tout ira bien.
Avec mon Dieu,
tu sais tout ira bien.
Avec mon Dieu, avec mon Dieu,
tu sais tout ira bien.
Amen. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Tout à l'heure, nous avons entendu que Dieu est accessible tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, même les jours fériés. Donc, si vous voulez vous adresser à Dieu, Dieu connaît vos besoins. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de protocole, de choses particulières à faire. On s'adresse à Dieu comme on s'adresserait à quelqu'un. Dieu, je ne comprends pas telle chose. Dieu, tu vois mes difficultés. Dieu, je te cherche depuis si longtemps. Je ne sais pas comment m'approcher de toi. Révèle-toi à moi, d'une manière ou d'une autre. Si nous voulons vous laisser un message, c'est notre Dieu vous aime, aime chacun, chacune. Adressez-vous à Dieu comme vous vous adressez à quelqu'un et soyez assurés que Dieu répondra. Nous avons aussi la parole de Dieu qui nous parle de Dieu d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers sa parole, à travers une situation, une circonstance. Quand il est dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais bien souvent, c'est nous qui n'y prenons pas garde. Mais Dieu parle. Soyez assurés, Dieu parle. Je vais laisser la place.